Et Ebola, maladie contagieuse, se manifeste par de fortes fièvres, diarrhées, vomissements, maux de tête, rougeur des yeux, maux de ventre, fatigue extrême et manque d'appétit. Je me protège d'Ebola en me lavant les mains fréquemment à l'eau et au savon ou avec de la cendre, en évitant de toucher l'animal trouvé mort dans la forêt et le corps de malade mort d'Ebola. Je peux guérir d'Ebola en me rendant le plus tôt au centre de santé. C'est de cette manière qu'ensemble nous allons vaincre Ebola. Pour avoir des réponses à toutes vos questions, appelez le numéro 47 22 22. C'est gratuit. Message du ministère de la Santé en RDC.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons du rôle d'un assistant social. Vous savez, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés qui ne leur permettent pas de mieux évoluer au sein de la société. Il peut s'agir des difficultés liées au logement, à la santé ou à l'éducation des enfants. Alors, pour sortir de ces difficultés, ces personnes ont besoin d'être assistées socialement. Comment assiste-t-on les personnes en difficulté en RDC et les personnes en état de vulnérabilité? Quel est le rôle que doit jouer un assistant social une assistante sociale, n'est-ce pas, par rapport à toutes ces personnes qui ont des difficultés, des problèmes dans la vie? Eh bien, nous allons en savoir plus aujourd'hui avec nos invités. Nous avons dans ce studio Madame Josiane Polo, elle est assistante sociale, et Monsieur Jacques Kabongo également est assistant social. Madame Josiane Polo, je commence avec vous. C'est qui un assistant social?
L'assistant social, c'est la personne qui est formée, tout d'abord, parce que on a souvent tendance à mettre le cœur en avant quand on parle du social, mais il faut savoir qu'il y a des méthodologies pour pouvoir appliquer le travail social. Donc c'est la personne qui est formée, qui est mandatée par une institution et qui s'occupe de personnes en situation de vulnérabilité. Donc ils cherchent des mesures adaptées en fonction de sa situation. Donc il faut bien préciser que les personnes sont mandatées et formées. Donc ça, je tiens vraiment à mettre le point précis là-dessus, parce que les gens ont tendance à penser que le cœur suffit, mais dans cette fonction, le principal, c'est le rationnel. Donc on ne sait pas aider une personne si on n'est pas dans le rationnel.
Il faut être formé d'abord, et ensuite être mandaté par une institution.
Oui, parce que quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain, se décider d'apporter son concours à l'aide à une personne, parce que si une personne le fait, de manière personnelle, il peut s'avérer qu'il est face à une difficulté qu'il ne sait pas résoudre. Mais entre-temps, il va lâcher la situation et continue son bout de chemin. Tandis qu'une personne qui est mandatée par une institution a des obligations envers l'institution, donc est obligée de suivre la personne tout le cheminement. Donc c'est ça la différence entre celui qui vient avec le cœur et celui qui viendra avec la raison.
D'accord. Alors vous avez parlé de personnes vulnérables. Qui est une personne vulnérable?
C'est toute personne, il n'y a pas de critères spécifiques. Maintenant, c'est vrai que la vulnérabilité, elle est souvent vue au niveau des enfants et des personnes âgées. Mais il faut savoir que toute personne peut se trouver dans une situation de vulnérabilité ou de précarité. Donc il n'y a pas de profil prédéfini.
Ok. Une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on manque de tout, c'est ça?
Ça peut être à ce niveau-là, parce qu'on le voit au niveau financier, mais on peut aussi se retrouver face à une situation de drame. Donc je prends le cas d'un enfant unique qui se retrouve orphelin du jour au lendemain. Au niveau financier, ça peut aller, mais au niveau de la prise en charge familiale, comme on ne sait pas ce qui va se passer, un assistant social peut intervenir.
Voilà, une assistante sociale peut intervenir. Monsieur Jacques Kabongo, vous êtes aussi assistant social. Parlez-nous de ce travail d'assistant social ici en République démocratique du Congo.
Oui, en République démocratique du Congo, nous définissons l'assistance sociale dans un concept dans la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009. Cette loi définit l'assistance sociale comme étant un agent de l'État ou d'un organisme agréé et spécialisé dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines, afin d'améliorer le bien-être général, il œuvre à la promotion de bonnes mœurs. Et comme Madame Jean le disait tout à l'heure là, l'assistance sociale, en général, accompagne des personnes vulnérables.
Alors, vous avez parlé des problèmes qui arrivent dans la vie en société. Pouvez-vous nous citer d'autres exemples des problèmes? Madame Josiane a parlé d'un enfant qui a perdu ses parents. Il est vulnérable. Alors, quels sont les autres problèmes qui arrivent souvent et qui nécessitent une assistance?
Bon, prenons les cas que nous connaissons en République démocratique du Congo, les enfants dits de la rue. C'est un problème que nous connaissons dans notre ville, dans notre pays. Alors, ces enfants-là, pour qu'ils puissent recevoir une assistance sociale, il faudra des personnes bien formées qui sont des assistants sociaux pour accompagner ces enfants-là afin de les faire sortir dans leurs difficultés qu'ils rencontrent. Ça peut être peut-être que ce sont des enfants, les parents sont séparés, peut-être l'enfant il a été chassé en famille parce qu'il est accusé de la sorcellerie, ou tout simplement que l'enfant ne veut pas peut-être rester en famille. Donc l'assistance sociale est là pour accompagner ces enfants-là et pour qu'ils puissent retrouver aussi quelquefois leur autonomie. Et malheureusement, ce rôle en République démocratique du Congo n'est pas connu. Et grâce au ministère des Affaires sociales, il a créé depuis 2014, si je ne me trompe pas, un institut national des travailleurs sociaux et qui se trouve sur l'avenue Kalemelemba, à la commune de Lingwala. Donc voilà un peu ce que je peux dire.
Voilà, donc alors là, vous avez beaucoup plus parlé des enfants. Donc il n'y a que les enfants qui ont besoin d'une assistance ou pas?
Non. Nous avons des personnes de troisième âge. Nous avons peut-être aussi des femmes qui subissent diverses violences. Nous avons des enfants. Bon, si on réfère toujours aux enfants, pas tous pas des enfants, mais il peut être aussi vous aussi à la radio Capi, vous avez un service social. Peut-être que un de vous a perdu son épouse, ou peut-être il y a le problème de l'argent. Et l'assistance sociale peut être là pour faire la médiation entre l'employé et l'employeur. Donc, nous avons besoin d'une assistance sociale, que ce soit un enfant, un adulte ou un vieillard.
D'accord. Alors, Madame Josiane, quelle est la nature de cette assistance que vous apportez aux personnes vulnérables?
La nature va dépendre du besoin de la personne, parce que on ne peut pas se mettre à la place des gens, donc on n'a pas de réponse précise, donc tout va dépendre de la demande. Donc en fonction de certaines personnes, on va dire ça peut être au niveau pécunier. D'autres personnes auront besoin d'aide psychosociale, donc il faut les suivre à ce niveau-là. D'autres personnes auront besoin de recréer du lien ou de favoriser la réinsertion. Donc je précise bien, tout dépend de la demande, parce que prendre des décisions à la place des personnes, ça, ce n'est pas le rôle de l'assistant. Et pour pouvoir trouver des solutions, il faut toujours que la demande émane de la personne. Parce qu'une personne ne se sent impliquée que quand elle est face à son projet.
Alors, pouvez-vous nous donner des exemples, deux ou trois exemples des cas d'assistance que vous avez eu apporté récemment?
Alors, on va dire dans le cadre, si, bon, on va prendre un cas qui va être fait sous peu. On va aller dans un centre. Alors, l'idée, c'était de voir quelle était la problématique de base de ce centre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de lacunes au niveau cognitif, hein, donc les développements des capacités intellectuelles pour les enfants. Alors, venir juste pour venir, peut-être avec des vêtements hauts, ça n'avait pas de sens. L'idée, c'était de développer les capacités cognitives des enfants. Et on s'est dit de venir maintenant avec des jeux. Donc, on va travailler à partir du jeu pour pouvoir un peu observer les enfants, voir si les jeux auront une plus-value, parce qu'on sait qu'avec les jeux, on peut développer pas mal de capacités. Hein, donc autant on peut développer les capacités langagières, donc favoriser la mise en place du développement global.
Oui, l'expression de la parole, oui.
On peut développer aussi les capacités logiques, mathématiques et autres. Et donc on s'est dit, au lieu de venir avec de la théorie toute faite, on va passer par un autre outil, c'était le jeu. Donc ça, on va dire, c'est un peu le rôle du travailleur social à cette ère-là.
Maintenant, et ces enfants ont quel problème, ces enfants qui sont dans le centre-là?
On va dire ce sont des enfants dont les parents ne voient pas la nécessité de les mettre dans le système scolaire, parce que les parents ont besoin de la main-d'œuvre de ces enfants, donc ils sont plus à faire du travail maraîcher.
Okay.
Donc, comme il y a un déficit au niveau scolaire, ben, on le voit avec certaines lacunes, alors l'idée c'était quand même de renforcer ces lacunes-là, mais avec un autre outil.
Bien, on va accueillir les auditeurs, nous appellent aussi dans cette émission pour poser des questions, pour ça, en savoir un peu plus. Monsieur Jacques, vous avez un autre exemple, un autre cas. Aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, nous voyons dans les rues de Kinshasa, beaucoup de personnes aveugles qui se font accompagner des petits enfants en train de quémander chaque fois qu'il y a le feu rouge. Voilà, ils envahissent le boulevard du 30 juin, par exemple, à Kinshasa, pour demander l'assistance. Alors comment, par exemple, pour ces gens, cette catégorie des personnes vulnérables, qu'est-ce qu'un assistant social peut leur apporter?
Bon, ce que je peux dire, ce qu'il peut faire pour rendre bien son travail, si au niveau institutionnel, il n'y a pas une force, il n'y a pas un appui, l'assistant social ne peut rien faire. Donc, ce qui est bon, qu'il existe des centres qui encadrent toutes ces personnes vivant avec un handicap. Malheureusement, comme il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un bon encadrement, et il se retrouve dans la rue. Mais nous pensons que si on met des moyens, l'assistance sociale peut arriver à encadrer toutes ces personnes-là qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à sortir de leur situation de vulnérabilité.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Charles Kisimba nous appelle de Lubumbashi, Emery est à Kananga, Papi Kalema à Kindu. Nous parlons du rôle d'un assistant social avec Madame Josiane Polo et Monsieur Jacques Kabongo. Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Oui, d'entrée de jeu, j'ai quatre petites questions. La première est la suivante. Quels sont les spécifiques pour devenir assistant social? Pourront-ils nous dire la genèse de l'assistanat au Congo? 3. Quel est le champ de bataille d'un assistant social? Et 4. Pour terminer, y a-t-il le lien entre l'assistant social et l'INSS? Je vous remercie, c'est Charles Salangueta de Lubumbashi.
Merci. Emery, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Joshi, bonjour à nos invités.
On vous écoute.
Oui, je voudrais un peu que nos invités me donnent la différence qui existe entre un travailleur psychosocial, un assistant social et un agent de santé mentale. Et en plus de ça, vous savez, avec l'avènement des phénomènes comme une ansapo, il y a ce qu'on appelle les VBG, les violences basées sur les genres, où il y a des personnes déplacées, des personnes réfugiées, il y a aussi des cas de violences sexuelles. Oui, à la division des familles, partout. Et c'est vrai qu'il y a des organisations qui viennent avec des assistants sociaux. C'est pourquoi je voudrais un peu qu'on me dise, est-ce qu'il y a vraiment une différence qui existe entre un travailleur psychosocial, un assistant social et un agent de santé mentale? À part ça, dans les cas où il y a une survivante des violences sexuelles, quels conseils pouvons-nous les donner en tant qu'assistant social?
Merci, Emery de Kananga. Papi Kalema, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute papy.
Merci beaucoup. Je voulais juste demander la première question aux assistants sociaux qui sont là-bas au studio. Leur bilan. Combien de gens qui ont déjà assisté les vulnérables là au Congo, si pas à Kinshasa comme la capitale, parce qu'au Maniema ici, il y a tant de gens vulnérables que je ne l'ai jamais vu être assisté par les assistants sociaux, si je peux les appeler ainsi. Parce que la vie sociale aussi dépend d'une manière ou d'une autre par rapport au revenu qu'un homme ou une femme en a. Il y a un problème trop sérieux. Donc, qui me donne leur bilan, parce qu'il y a des vieillards, il y a des aveugles, il y a des sourds et muets qui ambulent partout dans la ville, qui n'ont pas un encadrement. Qu'est-ce que ces assistants sociaux font pour les encadrer? Ils me donnent leur bilan pour qu'on sache si réellement ils ont déjà encadré combien de personnes vulnérables depuis que cette association a eu lieu. C'est Papi Kalema qui est au Masangalande, propriétaire de Tokoloté, dans la ville de Kindu, Je vous remercie.
Merci. Quel est le rôle d'un assistant social, Madame Josiane? Vous avez suivi les différentes questions des auditeurs. La première, Charles de Lumbashi veut savoir où est-ce qu'on forme les assistants, où se trouvent les écoles où ces personnes sont formées. Ouais, Monsieur Jacques Abongo.
Oui, les formations pour devenir assistant social en République démocratique du Congo, je disais au début de l'émission qu'il existe un institut national des travailleurs sociaux. Alors, pour devenir assistant social en RDC, il faut être titulaire d'un diplôme d'assistant social obtenu au terme d'un cycle de 3 ans. C'est une formation initiale.
De 3 ans?
De 3 ans.
Dans quel établissement, ici chez nous?
INTES, Institut National des Travailleurs Sociaux.
Okay. Où est-ce que ça se trouve, hein?
Sur l'avenue Kalembe-Lembe, dans la commune de Lingwala. Numéro 248. C'est un bâtiment conçu par le ministère des Affaires Sociales. Comme vous savez, il existe une école d'administration, une école de cadastre. Le ministère des Affaires Sociales avait pensé bien de créer aussi cet institut. Bon, parce qu'à l'époque, il existait des assistants sociaux, entre guillemets, qui ont fait une formation de 3 mois, de 6 mois. Maintenant, on a cherché de réglementer des histoires au niveau de ce travail-là. Mmh. Alors, pour être assistant social, il faut être aussi inscrit dans le corps des assistants sociaux. Nul ne peut porter ce titre-là s'il n'a pas fait, disons, cette formation-là initiale de 3 ans. Donc, voilà un peu la réalité de notre pays.
Et cet institut a des représentations dans toutes les provinces à travers le pays?
Malheureusement, non. Mais il y a le corps des assistants sociaux qui est en train de mettre en place au niveau provincial, comment on peut arriver même dans les couches reculées, faire connaître ces métiers, afin que ceux qui sont sur place arrivent à bien travailler.
Et Madame Josiane, en Europe, par exemple, en Belgique, comment ça se passe? Ça prend combien de temps la formation d'un assistant social?
Elle est de 3 ans, donc c'est une formation générale de 3 ans. Mmh. Et après, en fonction de sa sensibilité, on va dire que l'assistant social va peut-être faire des formations complémentaires pour approfondir certains champs d'action. Mmh. Parce que là, ici, il y a une personne qui a posé la question par rapport à 3 définitions, hein, si je me souviens bien. Donc, on avait parlé du...
Oui, il faut savoir la différence entre un travailleur psychosocial, mm-hmm. assistant social et agent de santé mentale.
Alors, ce sont tous des travailleurs sociaux. Mm. Maintenant, il faut savoir qu'en fonction de l'endroit où on travaille, on porte des casquettes différentes. Alors, le travailleur, pour moi, psychosocial, c'est celui qui fait de la psychoéducation. Donc, il est, on va dire, à partir d'actes techniques, il essaye de réintégrer certaines catégories de personnes.
Un exemple, donc, vous donnez des cas.
Moi, c'est parce que je travaille principalement aux enfants, donc j'aurais tendance à me rattacher aux enfants. Alors, pour sortir de là, je vais prendre des personnes âgées. Donc, oui. On sait qu'une personne âgée, avec le vieillissement, au niveau squelettique, hein, donc a tendance à... au niveau de sa préhension. Donc, la préhension, c'est, on va dire, la manière dont on saisit les choses.
Oui.
Avec l'âge, cette capacité-là s'altère. Donc, ça veut dire que le psychoéducateur va trouver des activités qui vont aller autour de l'appréhension pour, on va dire, prolonger ces capacités-là pour la personne âgée. Donc, on va dire, ça, c'est le rôle du psychoéducateur. Donc, le travailleur en santé mentale, bon, c'est lui qui s'occupe un peu de toutes les personnes qui ont des pathologies au niveau mental. Donc, ça peut aller de la personne qui a subi des sévices et qui va développer un trouble. Donc, il a les techniques, hein, et les moyens pour l'aider, on va dire, sortir de là. Ça va être quelque chose de difficile, mmh. mais c'est pour l'accompagner tout le long de ce cheminement-là. Donc, ça peut être faire des activités autour de l'estime de soi, parce qu'une personne qui a été, violée, bah, il y a une perte de l'estime d'elle-même. Donc, le fait de favoriser des activités qui vont dans ce sens, c'est pour l'aider à récupérer cette capacité-là.
Estime, ouais. Mmh. Et il a parlé, Mary a parlé, par exemple, du cas du Kasaï à Kananga. Ils ont connu avec le phénomène Kamuina Sapu. C'était des moments très durs, très difficiles. Les familles étaient séparées. Il y a eu des violences. Les gens sont traumatisés. Mmh. Alors, face à une telle situation, qu'est-ce que les assistants sociaux, un assistant social peut faire dans une partie du pays qui a connu les affres de la guerre?
Alors, l'idée, c'est d'abord d'abord, on cerne la situation et on contextualise au fait le travail en fonction de la réalité du terrain. Donc, venir avec des solutions toutes faites parce qu'à gauche on avait fait ça, ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'abord voir c'est quoi la réalité et travailler. Bon, on parle de cas de sévices, donc on va travailler le fait de, comment dire, aller du bien-être de la personne. Donc on va d'abord travailler cet aspect-là. Mais on ne peut pas donner de réponse toute faite quand on n'a pas la réalité. Parce que oui, les gens sur place ont vécu des trucs, mais nous on est de l'autre côté. Donc un travailleur ne peut que travailler en fonction de la réalité qu'il découvre.
Comment procède un assistant social? Il doit d'abord arriver sur place et prendre langue, parler avec les personnes traumatisées.
Donc, il va tâter un peu la mesure de la situation, voir les relais d'aide, parce que l'assistant social est là, mais il y a peut-être tout un réseau tout autour avec lequel on peut travailler. Donc, une personne qui aura subi des sévices, on va dire il y a peut-être un petit blocage, mais il suffit que peut-être en discutant un peu avec quelqu'un de la famille, j'ai une personne relais avec laquelle je peux essayer de travailler pour essayer de rassurer cette personne. Donc, en fonction de ce que je vais trouver sur place, je vais développer des projets qui vont aller dans ce sens.
Voilà, Monsieur Kabongo, une femme violée, par exemple, pendant la guerre, elle est traumatisée, elle vit aujourd'hui avec ses traumatismes. Comment est-ce que vous procédez pour l'aider à sortir de cette situation?
La première chose à faire, c'est l'écoute. L'écoute est très important. Et laisser le temps que la personne s'exprime. Ne jugez pas la personne avant cet entretien. Et lorsque vous aurez à recueillir toutes ces informations, l'assistance sociale n'est pas là pour vous donner des solutions. Mais il est là ensemble, de trouver quelque chose qui vous permettra de sortir de cette situation-là. Donc, lorsque l'assistance sociale arrive pour travailler ensemble, il n'est pas là pour vous dicter ce que vous allez faire. Mais ce que vous pensez vous-même, la personne vulnérable, ce que vous souhaitez faire, et l'assistance sociale sera là pour vous orienter ensemble afin de sortir de cette situation.
On dit souvent que lorsqu'on a des problèmes et qu'on trouve une personne qui vous écoute, avec qui vous pouvez échanger, ça vous soulage déjà.
Oui, parce que, il faut reconnaître que la première clé pour l'assistance sociale, c'est l'empathie. Être à la place de la personne, et être disposé de l'écouter, comme je le disais au début. Et grâce à toutes ces informations-là, maintenant l'assistance sociale sera en mesure de donner certaines pistes pour faire sortir la personne dans cette situation.
Voilà, et on va accueillir Gentil Oumanou de Kalanga. Bonjour Gentil.
Bonjour à nos deux invités du jour.
Quelle est votre question?
Merci, Jésus, de m'avoir accordé la parole. Je voulais demander à nos invités, les secouristes ou les Croix-Rouges sont aussi les assistants sociaux? Ma deuxième question, un assistant social peut venir en aide à un commerçant qui a perdu son moyen. Il peut venir en aide à ce commerçant qu'il puisse bousculer ses activités à l'aide de la voix. Mais ma troisième question est de savoir, est-ce que nos deux invités ne peuvent pas juger bon d'introduire dans le programme soit primaire ou bien au niveau de l'humanité le goût qui engage avec les assistants sociaux. Merci, c'est gentil, on est depuis Ghana.
Merci Yannick, vous êtes à Manono, bonjour. Bonjour Yannick.
Allô, merci, le journaliste.
On vous écoute, Yannick.
Ok, j'avais juste deux préoccupations à poser à nos invités.
Oui.
Et la première est celle-ci. Je voulais savoir quand est-ce que cette assistance sociale a-t-elle été fondée. Et après ça, je voulais dire que si cette assistance sociale est dans le Congo entier, ou soit elle est dans certaines provinces, parce que je voulais juste... Et connaître pourquoi pas, nous n'avons pas ces gens-là qui travaillent pour cette assistance sociale ici chez nous à Manono. Voilà les deux petites questions que je pouvais poser à nos deux invités. Merci, monsieur le journaliste.
Bien, merci. Revenons d'abord, il y a eu plusieurs questions, Madame Josiane. Charles de Lubumbashi avait posé la question de savoir quelle est la genèse, comment est-ce que ce travail, ce métier d'assistant social avait démarré.
On va dire que le travail social, on parle souvent de la prostitution comme le plus vieux métier du monde, mais je pense que le travail social aussi est le plus vieux métier du monde parce que si on remonte depuis la nuit des temps, chaque fois qu'une personne était démunie, il y a toujours eu quelqu'un pour l'aider. C'est juste qu'avec le temps, on a structuré cette forme d'aide, mais depuis la nuit des temps, on va se référer par exemple au plat qu'on laisse toujours parce qu'on sait que quand il y en a pour un, il y en a pour dix. Mmh. Mais c'est du social à la base, c'est juste que ça a été cadré. Donc c'est un métier qui a toujours fait partie de la nature humaine. La nature humaine, je pense qu'elle est bonne de nature. L'être humain ne sait pas regarder son semblable en le laissant comme ça. Donc ça fait partie de la nature humaine. C'est juste qu'on structure tout cela avec le temps et en fonction des pays. Et en fonction des réalités sociétales et politiques, il y a des gens qui ont structuré cela plus vite et d'autres un peu moins, mais c'est un métier qui fait partie depuis la nuit des temps.
Voilà. Et j'imagine que parmi les qualités d'un assistant social, il faut peut-être avoir ce sens d'humanisme, cet amour de l'altruisme, vouloir assister à aider les autres.
Mais c'est la fondation même, je pense, du travail social. Donc les valeurs qu'on retrouve souvent ici, donc on a la démocratie, parce que le travailleur social, c'est celui qui veut que tout le monde ait son mot à dire. Mmh. C'est celui qui veut un peu plus de justice sociale pour tout le monde. Donc ça, ce sont les fondements même du travail social. Maintenant, en parallèle de ça, on a les différentes fonctions, parce qu'il y a le travail social avec les différentes casquettes en fonction du lieu où il va travailler, mais il y a les différentes fonctions qu'on peut retrouver, qui sera la fonction d'accompagnement, qui est la première fonction quand quelqu'un a une problématique. La première chose qui vient, c'est parler. Et parler, c'est accompagner pour le travailleur social. Donc il y a la fonction de reliance, il y a la fonction interface. Il y a la fonction en tant qu'acteur social, puisqu'il fait partie d'un système dont il est acteur. Donc ça, c'est aussi une de ses fonctions. Et la fonction dont on a tendance à oublier le plus souvent, c'est la fonction politique. Parce que autant on travaille pour les citoyens, mais autant le travailleur social est celui qui rappelle aux politiques ses devoirs envers la population.
Bien, une autre question était de savoir, on va d'abord accueillir deux autres auditeurs. Maître Machaka et Talbumbashi, Honoré Kapeta Kananga. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio privée, au Capi.
Quelle est votre préoccupation?
J'avais une préoccupation Monsieur Jody, puisque nous savons que aider les démunis c'est une œuvre sociale et quand nous recourons aux écritures bibliques, on nous dit que si la main gauche donne, la main droite ne peut pas savoir ce qu'on donne. C'est-à-dire on aide ces gens-là. On n'attend rien de retour. Mais comment expliquer que les organismes internationaux, dès qu'ils cherchent à faire des dons aux démunis, il faut qu'il y ait la présence des presse et ainsi de suite. À ce moment-là, ils le font dans le cadre social ou bien dans le cadre commercial. C'était ça ma préoccupation, M. Jody.
Merci. Honoré Kapeta de Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel Kachama. C'est Honoré de Suir Kapeta de Kananga. Je vous appelle, je suis à Kananga.
Quelle est votre question, Honoré Kapeta?
Bien sûr, je suis à Kanuka. Ma question, j'avais quelques questions à poser à nos invités, présentement au studio. La première des questions est de savoir, l'invité a parlé, donc pour devenir un assistant social, il faut faire une formation de 3 ans. Alors, je voudrais savoir un peu, quelqu'un qui a fait, par exemple, l'option sociale, peut-il aussi être appelé une fois un assistant social? La deuxième question, j'aimerais un peu savoir encore, les attitudes qu'un assistant social peut adopter lorsqu'il s'apprête au devant de son client. Quelles sont ces attitudes-là qu'un assistant social peut adopter lorsqu'il se trouve devant son client? Alors, on a fait des questions, les autres m'ont échappé.
D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Honoré Kapeta. Revenons d'abord à la troisième question de Charles, M. Kabongo, Jacques. Il veut savoir, y a-t-il un lien entre l'assistanat, je ne sais pas si on le dit ainsi, l'assistanat social, et l'INSS? Voilà, c'était ça la question de Charles de Lubumbashi.
Bon, vous savez, le social dans notre pays, on en parle partout. Mais il faut savoir différencier de choses. L'assistanat, ce n'est pas un travail social. Vous le faites pour un but bien déterminé. Prenons par exemple aujourd'hui, nous préparons les élections. Vous verrez partout les papas sociaux, les mamans sociales. Donc ils viennent là pour un but bien déterminé. Dès que ils ont atteint leur but, c'est fini. On parle plus de papa social, on parle plus de maman sociale.
C'est oublié.
C'est oublié. Mmh. Mais par contre, l'assistance sociale est là. Même s'il vous assiste, il ne vous abandonne pas, il fera des suivis. Même s'il fait des suivis, il arrive à contrôler ce que vous êtes en train de faire. Prenons pour l'INSS, je pense que comme vous le connaissez, ce sont des contributions que chacun de nous, un travailleur qui donne à chaque fin du mois. Et puis, lorsqu'il va à la retraite, il pourra bénéficier des contributions qu'il aura fait pendant,
disons... Donc, il n'y a pas de lien, c'est différent.
Bon, il y a toujours des liens parce qu'il y a de travailleurs qui ont contribué, mais quelquefois, ils n'arrivent pas à bénéficier de leurs contributions.
Oui.
Alors, l'assistance sociale peut aussi aider toutes ces personnes-là pour les orienter dans le bureau ou bien dans les organisations qui s'en occupent. Donc, l'assistance sociale, elle est aussi pour vous orienter dans vos problèmes. Je voulais encore revenir, il y a un invité qui a posé la question pour savoir combien de personnes que vous avez déjà assistées, des personnes vulnérables.
Mm-hmm.
Je profite de dire que notre ONG IRED Africa a créé une école en progression qui assiste tous les enfants vulnérables dans la commune de Lancelle. Et les enfants ne payent pas les frais et c'est l'école qui prend en charge. Et nous avons environ 250 enfants que nous prenons en charge et qui ne...
Dans le cadre de votre ONG.
Oui, 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 c'est ça.
Bien, une autre question. Papy Kalé m'a demandé, voilà, je crois que vous avez répondu à la question, combien de personnes ont été assistées. Gentil Oumanou veut savoir si les secouristes font partie aussi des assistants sociaux.
Bon, globalement, ma réponse sera non. Maintenant, tout va dépendre du cadre où ils vont se situer. Mais sinon, ils ne font pas partie de ce réseau-là.
Voilà, ils ne font pas partie de ce réseau-là. Et puis, Gentil veut savoir, un commerçant qui a perdu son capital, il a fait ses activités, ça n'a pas marché, il a des problèmes, sûrement il s'est fait beaucoup de soucis, est-ce qu'il peut être assisté aussi?
Ben oui, comme on l'a rappelé, l'assistance sociale revêt différentes casquettes, donc il peut aussi se retrouver au niveau administratif, et celui qui va conseiller, qui va orienter et la personne lui donner les bonnes informations. Donc il est possible de retrouver des travailleurs sociaux, on va dire dans des organismes au niveau administratif. Donc si la personne ne sait pas s'y prendre, ben, la personne sera là pour le seconder.
D'accord. Il voulait savoir pourquoi ne pas introduire par exemple des cours sur l'assistanat social dans le cursus des formations scolaires.
Mais c'est parce que je pense qu'il faut quand même des méthodologies. C'est comme si on me disait, pour médecine, on va introduire des cours de médecine dans le cursus de base scolaire, ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un commence l'école, ben, il apprend d'abord les acquis de base qui va permettre de développer au fur et à mesure. Ben, c'est la même chose que le travail social, donc il faut des méthodologies adaptées. Et l'idée, c'est d'avoir les cycles de base et puis après d'aller se former de manière un peu plus poussée.
D'accord, oui, monsieur.
Oui, je voudrais ajouter, ceux qui souhaitaient faire le social, je pense, au niveau de notre pays, il y a des humanités, des écoles sociales. Donc, je pense que c'est déjà un bon départ. Celui qui fait, disons, l'école sociale a la facilité aussi, au niveau supérieur, de faire ses études pour devenir assistant social. Donc, il y a de formations bien appropriées, que ce soit des formations continues ou initiales. Mais je demanderai à nos auditeurs de choisir de faire la formation initiale qui est très importante. Mmh. J'avais oublié, il n'y a pas tout simplement INTES qui forme des assistants sociaux, mais il y a aussi CAFES, une école bien implantée dans notre pays, qui forme des éducateurs et des assistants sociaux.
CAFES, qu'est-ce que ça signifie?
Je ne voulais pas me tromper, mais ça doit être centre de formation de des assistants sociaux. Donc, je ne maîtrise pas. Je ne voulais pas peut-être donner une fausse réponse.
Ibala Yannick nous a appelé de Manono. Il dit que là-bas, ils ont besoin des assistants sociaux. Apparemment, ils ont aussi beaucoup de problèmes. Hein. Il n'y a pas d'assistants sociaux là-bas chez eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Yannick de Manono?
L'idée, c'est que autant de notre côté, on ayant réceptionné cette demande, c'est de faire un retour vers les institutions. Parce que le premier pourvoyeur de travailleurs sociaux reste l'institution. Donc quand je parle d'institution, c'est un peu de regarder du côté des politiques et qu'ils puissent mettre les politiques sociales en place afin qu'on puisse répondre à toutes les demandes.
Voilà. Et Maître Machak a dit, d'après lui, les saintes lettres disent que si la main gauche donne, la main droite ne doit pas être au courant, mais il dit que certains organismes et certaines personnes font des dons et après on amène les caméras, tout ça, pour la visibilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ben, comme l'avait dit mon collègue Jacques tout à l'heure, on entend souvent parler de ce phénomène papa social, maman sociale. Voilà. Alors, c'est bien beau tout ça dans le fond, mais dans la forme, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que...
C'est tout simplement pour attirer la sympathie des électeurs.
À eux de voir ceux qui recherchent derrière, hein, parce qu'en général, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a un but derrière. Ça peut renforcer leur estime de soi, donc on ne sait pas. Mmh. Donc, une société fonctionne sur base de solidarité et non de charité. Donc ça, il faut bien faire la distinction. Alors, aux citoyens, on leur demandera surtout, quand une personne a tendance à venir vous aviliser et à ne pas vous donner votre autonomie, il faut se poser les bonnes questions. Ça veut dire que ce n'est pas du social. Donc, les gens doivent éviter de continuer ce genre de procédé.
Mmh.
Alors là, on va poser la question de l'éthique. L'éthique du travail social. Parce que il y a du bon et du mauvais partout. Alors, c'est à ceux qui se mettent au devant de la scène pour faire des œuvres qui n'ont pas de sens, à revoir leur éthique. Parce qu'un travailleur social n'aura pas, je l'espère, de problème à ce niveau-là. Il est formé et assez rationnel pour pouvoir faire preuve d'éthique à tout moment. Et c'est aux gens
de pouvoir... Il ne peut pas chercher à se mettre en valeur.
Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de pouvoir atteindre certains objectifs. C'est à ce moment-là que le travailleur social trouve sa place, en tout cas dans ce qu'il est en train de mettre en place. Et donc je ne vois pas l'intérêt pour le travailleur social de vouloir se mettre en avant. Donc ceux qui se mettent en avant savent, donc comme je dis, c'est la question de l'éthique. Donc quand on n'a pas d'éthique, on fait n'importe quoi, c'est un peu comme la médecine, hein. On va pas demander à un orthopédiste d'aller soigner un mot d'estomac. Mmh. Mais c'est un peu la même chose.
On va accueillir trois autres auditeurs, Kachai de Kanyoka, Godefroy et Tambujima et Platini Mbombo à Bandaka. Kachai, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à nos deux invités et à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Nous parlons aujourd'hui du rôle d'un assistant social. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Oui, merci beaucoup. Je suis intéressé parce qu'ici à Kanyoka, nous avons cette allié sociale qui regroupe un groupe de gens qui sont en train d'assister socialement, financièrement, certaines personnes vulnérables. Mais j'ai un témoignage par rapport à ce centre d'assistance. Ce centre a assisté beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui étaient en sécurité, qui par la suite, certains étaient envoyés à l'étranger pour besoin d'études, avec l'idée que ces enfants deviennent aussi ultérieurement des responsables pouvant porter secours à ceux qui sont aussi en besoin. Chose faite, les enfants étaient envoyés et certains étaient retournés ici à Kananga. À Kanyoka. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, monsieur le journaliste? Les parents de certains enfants envoyés à l'étranger pour étudier commencent à faire des problèmes à ces assistants sociaux de sorte qu'ils ne pouvaient pas envoyer les enfants sont partis, ils sont devenus des responsables, ils doivent commencer à les payer. C'est ça le premier cas que nous avons eu. Et si des problèmes, vous savez, aussi au village, lorsque les villageois ont des problèmes, ils s'attaquent aux gens sans savoir ce qui se passe normalement. Deuxième cas, c'est celui d'un assistant social qui a supporté les études d'une fille et qui par la suite a voulu prendre cette fille-là en mariage, sans verser la dot, avec la raison que tout ce que j'avais fait pour cette fille en supportant ses études, en lui donnant à manger, en faisant tout pour elle, cela ne suffit pour la prendre en mariage. C'est pourquoi je voulais demander à nos deux invités. Et s'il permet à un assistant social de prendre en mariage celle qui l'assiste. Deuxièmement, une personne financièrement faillie, comment on peut aussi porter assistance à une telle personne qui commence à se faire des idées à tout moment, qui ne sait pas se ressaisir pour relancer ses activités? Merci beaucoup.
Merci. Godefroy, vous êtes en Bougimaille, bonjour.
Bonjour aux auditeurs et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Rapidement, quelle est votre question, Godefroy?
Bon, j'avais une petite préoccupation à soumettre aux invités. Bon, j'ai déjà vécu un cas selon lequel une fille est tombée amoureuse envers un garçon comme ça. Alors, après un temps, le garçon s'est décidé de ne plus marier la fille. Alors, la fille est tombée gravement malade. On l'a amenée à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'il fallait faire, alors la fille ne s'est pas retrouvée. Mais à la maison, par relation avec un psychologue comme ça, celui-là a dit que non, comme cette fille a eu des problèmes, il faut appeler son fiancé là, qu'il vient. Alors quand il va seulement se voir avec son fiancé, alors elle va se retrouver. Effectivement, on a appelé le fiancé, il est resté à côté de la fille qu'il souhaitait prendre en mariage, et en un laps de temps, je dis, la fille s'est retrouvée. Alors, est-ce que l'autre peut être considéré aussi comme un assistant social? C'est ça ma préoccupation.
Merci Godefroy. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Merci beaucoup Jeudi pour la thématique du jour, les sujets très, très capital. Les rôles d'un assistant social. Je dis, vous pouvez savoir que un assistant social, c'est quelqu'un qui est très bien formé, comme madame a dit là, ici, là-bas, aussi avec vous là. Parce que tout le monde a besoin d'un assistant social. Même vous, je dis, vous êtes aussi besoin d'un assistant social auprès de la MONUSCO, hein, comme la Radio Café, tout ça. Mais moi-même, je suis inquiété parce que le sujet m'intéresse. Il y a deux jours, trois jours passés, il y a quelqu'un qui a perdu son père et il est venu parce qu'il travaille quand même. Il sait que non, dans les contrats qu'il a signés, on dit que non, s'il y a quoi, nous, l'entreprise, on prend l'assistance sociale, on se sortit. Il sait qu'il y a quoi, tout ça. Et le personne est venu au bureau demander auprès de son chef pour lui dire que non, il s'est éprouvé. Mon père est mort, je n'ai même pas les cercueils, je n'ai même pas comment je peux faire pour attirer tout ça. Mais l'entreprise, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que c'était avant-hier, ici dans la ville de Mbandaka, et l'entreprise n'a rien donné. Alors moi, je ne peux pas monopoliser la parole pour aller très vite demander à l'invité qui est là-bas au studio avec vous, si l'invité peut nous dire quels sont les types de contrats pour le cas sociaux. Parce que plus tard, quand on voit qu'il y a un problème, on va toujours aller demander que non, aidez-moi. Et aussi souvent, je dis, il y a aussi ce qu'on appelle les escrocs qui demandent à tout moment que non, aidez-moi, j'ai un cas pour ça, tout ça. Mais quand on lui donne, il part, il fait ce qu'il peut faire. Alors, moi, je veux quand même demander à l'invité, si l'invité peut nous dire quel type de contrat qu'on peut signer réellement, que l'entreprise soit reconnaît que c'est... C'est tout petit à besoin comme des cas sociaux. Jeudi, et je vous remercie. Jeudi.
Bien. Merci à tous ces auditeurs pour les différentes questions. Pour commençons avec celle des Kachai des Kanyoka, Madame Josiane, il part d'un foyer social qui existe à Kananga, un foyer social qui forme des enfants et certains sont même envoyés en Europe. Et lorsqu'ils reviennent, il y a certaines personnes qui les ont aidés, qui veulent les prendre en mariage. Bon, il a raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Comme je l'ai rappelé précédemment, il y a un problème au niveau de l'éthique. Maintenant, le souci, c'est que dans cette situation, on n'a qu'un point de vue global. Mais il faut se référer à ce qui est marqué dans les objectifs, au fait, de l'ONG ou de l'association. Et par moment, on peut déceler certaines failles qui rendent compte de l'incohérence de leur aide. Mmh. Donc, l'idée, c'est que quand on a du personnel bien formé, on peut, déceler toutes ces problématiques-là. Maintenant, je ne vais pas juger les personnes qui travaillent parce que je ne connais pas leur cursus, mais je sais que si on prend le temps de regarder le contrat, on se rendra compte des incohérences. Maintenant, il est interdit, c'est normalement au niveau éthique, il est interdit au personnel d'avoir une relation avec un bénéficiaire parce que dès le départ, la relation entre celui qui vient faire la demande et le travailleur social est asymétrique. Donc ça veut dire que l'assistant social est celui qui a le pouvoir par rapport à cette situation-là. Et je pense que quand on est dans tous les domaines de pouvoir, si on suit encore, on se rapporte à l'éthique, il est interdit d'avoir une relation avec un bénéficiaire. Donc là, on n'est pas dans la légalité.
Monsieur Jacques Aboum.
Oui, je voulais ajouter, malheureusement, comme on le disait au début, il y a des ceux-là qui portent, disons, la casquette de l'assistance sociale sans l'être en réalité.
Toute personne qui aide les gens n'est pas une assistance sociale.
Non.
Voilà.
Vous ne pouvez pas profiter, entre parenthèses, étant assistant social, et aider une personne en situation de vulnérabilité, en faiblesse, pour l'épouser. Non, parce que vous donnez de l'argent, vous voulez vous mettre au premier plan, parce que vous savez qu'elle finira d'accepter. Donc, je pense que ce genre de centre, ou que ce soit centre d'hébergement, centre de transit, s'il n'y a pas des assistants sociaux formés, ces centres-là, malheureusement, doivent être fermés. Parce qu'aujourd'hui, là...
Même dans les camps des réfugiés, on a besoin des assistants.
Bien sûr. Oui. Moi, je n'ai pas... Bon, là, c'est un autre problème. Donc, je dis... moi, j'ai fait l'assistance sociale aussi en Italie. Je reçois des émigrés qui viennent de la Libye. Lorsqu'ils arrivent à Lampedusa, ils ont besoin des assistants sociaux. Alors moi, étant qu'Africain, je connais, disons, l'histoire de tous les émigrés, la route qu'ils font. Donc, je suis en mesure de porter quelque chose, quelques informations de plus que les Italiens ne maîtrisent pas. Pour revenir à notre pays, je voulais ajouter qu'il existe le corps des assistants sociaux. Moi qui suis ici, j'ai une carte des assistants sociaux.
Et connu bien formé et reconnu par le ministère.
Par le ministère, parce qu'il existe le corps des assistants sociaux. C'est pour cela que je voulais signaler à nos auditeurs qui nous écoutent maintenant, si vous êtes assistant social ou assistant sociaux, faites-vous reconnaître auprès de vos hiérarchies qui sont au niveau de vos provinces. Parce que, je disais au début, nul ne peut porter ce titre-là si vous n'avez pas suivi une formation initial de 3 ans. Donc voilà un peu. Ici, dans la ville de Kinshasa, il y a aussi beaucoup de centres d'hébergement éparpillés. Malheureusement, vous ne trouverez pas des assistants sociaux. Ce sont des personnes qui ont ramassé de gauche à droite, qui ont suivi peut-être une formation de 3 mois, 6 mois, ou bien peut-être c'est mon cousin qui a une ONG, et vient ici, on va travailler avec les enfants de la RI.
Ils ont reçu des financements, et puis
des financements,
voilà,
on y va
sans faire appel aux assistants sociaux.
Donc,
oui. On va accueillir Cléo Mikobi de Kinshasa, Lidor Kayumba et Takazumba. Cléo Mikobi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi, bonjour aux invités.
Rapidement, quelle est votre question?
En fait, j'ai fait les techniques sociales aux humanités, donc je suis fait technicien social.
Oui.
Alors, je me demande si je dois encore faire une formation de 3 ans pour être appelé assistant social. Alors, quelle serait l'importance que m'a accordé le ministère de l'Enseignement en tant que technicien social, par exemple?
Merci. Alidor Kayumba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai dit bonjour à tous les étudiants de Radio Capital.
Quelle est votre question, rapidement? On a pris beaucoup de temps.
Oh oui, je voudrais intervenir par rapport à la thématique du jour. Il semble qu'un assistant social a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de la personne qui vient d'être déclarée séropositive ou, si vous le voulez bien, PVV. Alors, ma question est la suivante. En quoi doit consister cette assistance sociale de voir une personne qui vient d'être déclarée séropositive? Positive.
Merci Alidor Kayumba. Madame Josiane, Godefroy a parlé nous a donné un témoignage d'une jeune fille qui a connu une déception amoureuse. Bon, elle a commencé à souffrir. Et puis, un psychologue a recommandé que pour qu'elle guérisse, il fallait faire appel à ce jeune homme qu'elle aimait tant, qui devait rester avec elle un moment. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça qu'elle a été guérie. Alors, il veut savoir si un assistant social doit absolument aussi être un psychologue.
Bon, il a une formation de base qui lui permet d'avoir les prémices de la psychologie. Maintenant, il n'est pas, parce que en tant que travailleur social, on est censé travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, une équipe pluridisciplinaire regroupe aussi tous les autres corps de métier auxquels on peut relayer en cas de... Bon, là, on est dans la pathologie mentale, donc on pourra reléguer à la personne compétente.
D'accord. Monsieur Jacques Abongo, Platini nous parle d'un monsieur qui a perdu son père. Il va demander de l'aide à l'entreprise. On n'a rien donné. Et c'est des cas comme ça qui arrivent. Alors, en tant qu'assistant social, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, ce que je peux lui dire, d'aller, disons, il est dans quelle province?
Il est en Mbandaka.
Il est en Mbandaka.
La province de l'Équateur.
La province de l'Équateur. Alors, peut-être au niveau de la commune de Mbandaka, il y a des bureaux des assistants sociaux sur place. Il peut avoir du renseignement et les assistants sociaux pouvaient peut-être l'orienter dans le service bien approprié.
Cléo a fait technicien social. Il se demande s'il doit faire encore 3 ans pour devenir assistant social.
Bon, les techniciens, je peux dire, il est travailleur social, mais il n'est pas assistant social. L'assistant social, c'est aussi un technicien, mais avec une méthodologie qui est différente d'un technicien social. Donc, je pense que mon cher ami,
il faut aller se faire former encore pendant 3 ans. Madame Josiane, Alidor nous dit qu'il y a une personne séropositive. Il vient de faire les examens et la personne est déclarée séropositive. Est-ce que vous pouvez apporter aussi de l'aide à cette personne-là?
Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, la première aide, c'est d'abord l'écoute. Donc, il faut que la personne puisse se décharger et en fonction de ça, bon, on sait qu'il y a un suivi médical qui doit être adapté. Donc, le travailleur social va l'orienter vers les centres adaptés. On sait qu'il y a la recherche des médicaments. Donc, le travailleur social va pourvoir à toutes ces démarches administratives pour l'aider, on va dire, parce que ça sera la première aide à apporter. Parce que de toute façon, c'est une situation de vulnérabilité. C'est une situation où une personne est fragilisée. Donc, effectivement, elle a besoin du travailleur social à ses côtés.
Oui. Et souvent, on entend parler des assistants sociaux en Europe avec certains compatriotes qui savent que, bon, il y a une assistante ancienne. Ils ont beaucoup d'enfants, ils font beaucoup 5-6 enfants pour bénéficier de l'assistance. Pouvez-vous nous en dire un mot?
Alors, il faut savoir que l'Europe a mis en place des politiques sociales qui, justement, bénéficient à toute personne qui est en séjour régulière. Oui, effectivement, il y a de l'aide sociale, oui, il y a des
même les chômeurs.
Oui, non, mais c'est de l'aide sociale, hein, parce que je prendrai dans le cas de la Belgique, on a l'ECPS qui est une aide, un revenu minimal. On a le chômage, on a les pensions, parce qu'on ne parle pas des pensions, mais les pensions, même si les personnes y ont droit, ça reste aussi du cadre de l'aide sociale. Et on a les mutuelles, puisque quand une personne est malade de longue durée, elle peut aussi bénéficier d'un revenu. Alors, c'est fait pour donner la dignité à l'être humain, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui n'a pas sa dignité, son autonomie financière, bon, je n'aime pas trop ce mot, mais j'ai tendance à qualifier de ça de viol cognitif, parce qu'une personne qui n'a qui se retrouve dans une situation financière difficile, va se retrouver à commettre des actes qui ne sont pas de sa propre volonté, qui sont des actes de subsistance. Donc l'Europe a mis en place des politiques pour favoriser la dignité de l'être humain.
Bien, merci beaucoup Madame Josiane Polo, je rappelle que vous êtes assistante sociale et merci à Monsieur Jacques Kabongo, assistant social aussi. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service.